Mais ouais, mais c'est peut-être les mêmes genres de personnes qui pensent que Beyoncé, quand elle commande des sushis, elle chante, tu vois?
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Meilleur Podcast. Le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Sirius.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de blagues, de vannes, de comédies. On va discuter ensemble du meilleur ou de la meilleure humoriste. Je m'appelle Tom.
Et on est très bien entouré
on
pour
est
ce podcast.
Fort bien entouré. Une
ah
nouvelle
là
fois.
Là là là, une nouvelle
c'est
fois.
Pas une tradition ici d'être
c'est un
si
peu
bien
une
entouré.
Tradition. C'est un peu une tradition.
Finalement.
En face de moi, j'ai l'éminent Yacine Bellous.
Et oui, salut.
Salut, salut Yacine. J'ai réfléchi à dire, on dit bonsoir, bonjour, mais on dit salut.
Temporalité variable, ouais. Salut. Tout marche.
Maintenant, tu peux dire les deux.
C'est okay. Vrai qu'il est imminent, j'avais pas fait.
Ouais, je suis maintenant, à tout le moment. Merci beaucoup.
Non, mais c'était imminent, c'est pas imminent.
Imminent, c'est vrai. Mais il est imminent aussi parce qu'il
il est aussi
prêt
imminent.
À parler
je suis là,
tout de suite.
Mais parce qu'il fait de l'impro, machin et tout. C'est côté...
Yacine, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, qui es-tu?
Waouh, mais c'est bien trop complexe.
Ouais.
Issu d'une famille de maraîchers, ce qui est vrai. Je suis. je fais des blagues. Je fais du stand-up sur scène et j'écris aussi pour des séries ou bien des films. J'écris souvent dans le domaine de la comédie et puis j'ai été aussi acteur dans plusieurs films et séries. Voilà. Mais principalement, je suis sur scène en faisant plein de blagues, surtout du stand-up. D'accord.
Ce qui tombe plutôt bien pour l'émission du jour, finalement.
Ouais, c'est
bien,
parfait. C'est un très bon choix.
Ouais, finalement. Ouais. Et vous l'avez peut-être aussi entendu rire sur ce quatrième micro qui a été ouvert spécialement pour elle. On reçoit aussi Shirley Soignon. Salut Shirley.
Salut, salut.
Shirley, merci beaucoup d'être là.
Bah, merci à vous.
C'est un grand plaisir aussi. Un petit mot peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas aussi.
J'ai pris un camion dans la tête.
La carte a été abattue tout de suite. Ça y est.
Ah, c'est une folle histoire. Faut que tu racontes cette histoire du coup.
Je suis tellement traumatisée. On peut pas faire une émission sans que je le dise aux gens dès le départ.
Ouais, mais moi, je pense
quelqu'un
que
qui
important.
Vous a parlé a pris un camion dans la tête hier. Rapidement. Hein, j'étais en scooter et j'ai tourné la tête et après j'ai vu du goudron. mais je suis en vie et je suis contente d'être là. Merci de.
C'était hier. C'est arrivé hier.
On est compte.
Mais du coup, la phrase "je suis content que tu sois là" et fois 14
ouais.
milliards, tu vois,
de
parce
ouf,
que c'est
vrai,
genre,
content.
Ah, tu pouvais pas venir à cause d'un plan, c'est peut-être tu pouvais plus jamais venir. Je suis très content que tu sois là, Charlotte,
mais
ça me fait
ravi.
Très plaisir de te voir.
C'est pour une fois qu'on le dit pour de vrai.
Waouh!
On est très content. Non, mais voilà, très content d'être là avec vous, c'est cool, merci.
Bah, on vous en prie. Tom, est-ce que tu.
Et attends, Charlie qui s'est pas présenté.
Ah non,
coup,
j'ai
pas
vu. Ah
oui, exact. Avec Beck, c'était esquivé. Allez, elle a bien esquivé.
Le camion a.
J'ai tout oublié.
Je sais plus.
C'est vrai, je vais vous rappeler juste de ce rendez-vous. Oui. Je suis venu.
J'espère que t'as une nouvelle personnalité. Ce serait trop bien.
Je la cherche.
Voilà.
Mais écoutez, bah ouais, je suis humoriste. J'ai commencé au Jamel Comedy Club grâce au monsieur qui est à côté de nous, qui s'appelle Yacine Bellous.
Oui, c'est vrai.
Tu te rappelles de ça?
Ah non, on sait pas ça.
Ouais, en gros, moi je jouais dans des comédies, enfin des plateaux dont l'Art Café à l'époque.
Ouais, on s'est rencontrés là-bas.
Ouais, tu m'as détecté comme un producteur. T'as dit, toi, t'as un avenir.
Toi, t'es trop marrante.
Bien.
C'est vrai.
C'était super agréable et tout. Et un jour, je marche sur les grands boulevards. Je savais pas où était le Comedy Club encore. Et puis, je vois le Comedy Club, tu vois. Et là, je vois Yacine devant. Et il me dit, mais viens, rentre et tout. Je vais te présenter à Jean-Michel. Et c'est comme ça que j'ai commencé la troupe avec eux.
Jean-Michel, voilà. C'est le vrai nom
Jean-Michel
de Jamel Debbouze.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est, coup, ouais, c'est oui, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Et donc, son visage est
et
faux.
Merde.
Oui. On est d'accord. C'est le visage de Jamel n'est qu'un masque. Comme
c'est
dans
pour pas se faire
Mission
repérer.
Impossible.
Okay.
Et quand il enlève, c'est un gars blanc et blond qui s'appelle
Jean-Michel Debbouze.
Non, Joyeux. Et en fait, on le connaît mal, mais c'est quelqu'un de très important qui a vraiment aidé beaucoup le Comedy Club. Et la plupart des humoristes à Paris savent qui c'est. C'est un gars qui fait la programmation, on pousse les jeunes talents du Comedy Club dans la soirée qu'il y a le mardi et puis qui conseille énormément pour le samedi et dimanche. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'humour à Paris, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est important, c'est des moments charnières dans la vie d'un jeune humoriste quand il commence. Et Jean-Michel est un gars mortel qui a aidé beaucoup de monde. Voilà, donc big up Jean-Michel.
Ouais, grave.
C'est un peu un bijou.
C'est...
yes.
Ah, je pensais pas.
Bravo!
C'est... Ah, je pensais que les jeux de mots n'étaient pas autorisés.
Ouais,
les jeux de mots, je déteste
aussi,
ça.
Mais t'as applaudi.
Mais je déteste ça, mais en fait, avec le temps, vraiment, maintenant je comprends. Mais en fait, je comprends pourquoi les gens le font. Mais
oui,
par
d'accord.
contre, je peux pas avoir un spectacle où il y a que des jeux de mots. Moi, j'arrive
ouais,
pas. Et le jeu de mots que t'as fait là, tu l'as fait en t'excusant.
ce qui pardonne le jeu de mots. Alors qu'il y a des gars qui disent des jeux de mots en disant « Est-ce que tu as entendu cette
vous
brillante saillie ?» Là, t'as envie de lui jeter des macarons au visage. Voilà, tu sais, un peu
bourre. Avec ce regard de « T'as compris ?»«
T'as compris, comme tu es intelligent.
Cool, hein. Hein. Vous l'avez hein. ?»
Ce petit jeu de mots que j'ai trouvé. Et là, tu vas dire « Mais mange ton caca, s'il te plaît. » Dans une assiette chez toi, devant ta famille. Merci. Trop violent, je m'excuse.
T'inquiète.
Donc c'est comme ça que vous êtes rencontrés.
Exactement. Et
ouais, ouais.
Et, voilà,
et que j'ai continué après à faire ce travail. Et faut que je, vraiment que je continue. Ok.
Non, 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 comme tu veux, comme tu veux.
Là, je suis au max de ma présentation.
Ah, déjà, moi, c'est la. Tu te présentes incroyablement bien pour quelqu'un qui s'est pris.
S'est pris
un
camion. On est d'accord. Tom,
est-ce que oui, ce serait pas le moment où tu nous sors ton petit édito?
Je pense
Lady
que
Tom,
c'est
d'ailleurs.
Lady Tom.
Celui-là,
je l'aime moins.
Ouais.
Mais je vais dire la vérité.
Et, il était pas, celui-là, il a un jour comme ça. On l'a
voilà.
pas voulu.
Ouais, ouais. Non, mais les rubriques. Aucun problème. Aucun problème.
T'inquiète.
Non, mais les rubriques. Moi, je trouve ça cool d'avoir des jeux de mots en nom de rubrique ou en nom de titre d'émission.
Non, mais nous, on a ces jeux de mots en plus, Cyrus. On va pas se le cacher.
C'est vrai, les titres de journaux, ça me dérange moins. Tu sais, je me dis, oh, allez, bon, ça passe.
Mais
sinon, dans
la
vraie vie,
ouais.
quand on te regarde en disant, ah, ça rend ouf.
Une chose qui n'est jamais arrivée depuis les temps immémoriaux, une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Alors, ce moment de gêne que je viens de créer n'est pas totalement gratuit. Non, cette phrase, qui date de 1900 avant Jésus-Christ, est tout simplement la plus vieille blague du monde. C'est la très sérieuse université de Wolverhampton qui a mené l'enquête et qui a dressé la liste des 10 vannes les plus anciennes. Et même si on reste sur des thématiques chères à Jean-Marie Bigard, la forme de l'humour a quand même un peu évolué, on arrive à gagner en subtilité au fil du temps. Par exemple, en Angleterre, au Xe siècle, la vanne qui défonçait tout à l'époque, c'était celle de la clé. Si, la vanne de la clé, quoi.
Ah,
la vanne de la clé, quoi.
La vanne de la clé.
Qu'est-ce qu'il pense sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer? Réponse, une clé. Bon,
yes.
Bon, on rigole comme ça, mais faut pas trop se moquer des comiques du passé. C'était quand même vachement dur pour eux, hein. Ils avaient beaucoup moins de matière pour faire des vannes que les gens du présent. T'as pas beaucoup d'objets, de situations sociales ou d'expériences inédites qui te permettent d'avoir un répertoire de blagues fourni, hein. Quand t'es un homme ou une femme préhistorique, par exemple, une fois que t'as dessiné une bite sur les murs de la grotte, bah t'as plus grand chose à faire, quoi. Mais être un ou une humoriste, même aujourd'hui, je pense que c'est pas facile. Hein, c'est un métier qui subit une grosse pression sociale. Je pense que quand tu dis aux gens que t'es humoriste, j'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui doivent répondre « Ah ouais ? Bah vas-y, fais-moi rire pour voir. » Et ça, c'est hyper injuste. Hein. Jamais on va dire « Bah vas-y, fais-moi un double pontage » à quelqu'un qui t'annonce être chirurgien ou « Bah vas-y, fais-moi perdre mon temps » à quelqu'un qui travaille à la SNCF. Mais bon, tout ça, c'est peut-être que mon avis sur le métier d'humoriste. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir le vote, chers invités. C'est quoi le truc le plus dur quand on est humoriste?
Trouver un appart.
Yes.
Allez, bonne soirée.
C'est tout pour moi, j'ai pris un camion. Ok. Mais c'est vrai.
Ça fait partie des choses très dures.
Non, ouais. En fait, il y a soulève un énorme truc, c'est que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens ne nous prennent pas au sérieux dans la société encore. Là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce qu'on commence à comprendre que ça peut être un vrai métier, mais il faut être médiatisé pour que les gens comprennent ça. Quand tu es quelqu'un qui commence ta carrière, il faut plusieurs années avant de pouvoir être médiatisé. À part des grands succès rapides, il y en a qui existent, mais la plupart du temps, il faut vraiment du temps pour qu'on comprenne que tu es présent et avoir une certaine stature médiatique. Mais quand tu as passé et que tu dis aux gens, moi je raconte des blagues et tout, mais les gens disent, mais dégage, on n'a pas envie de. On a peur, on veut pas, on te fait pas confiance. On n'est pas très pris au sérieux, mais ça commence un peu à changer avec par exemple Netflix, avec le fait qu'on voit aujourd'hui que des, par exemple Farid a rempli Bercy. Ça c'est quelque chose qui fait réfléchir les gens en disant ok, bon, maintenant là, dans la comédie en fait il y a des artistes très puissants.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui il y a peut-être une dimension qui change et la manière dont on appréhende et dont on considère les gens qui font de l'humour?
Ouais, je pense que c'est surtout avant, l'humour en France c'était que du divertissement, c'était que de la grosse blague, faire le clown en fait. Mais je crois que le stand-up en fait a amené quelque chose de différent dans sa forme. On a des idées à défendre souvent.
Absolument.
Et bon, Yacine fait beaucoup d'absurdes en l'occurrence, oui. mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on montre vraiment que le stand-up, c'est pas que raconter des trucs sur la politique. Mais d'ailleurs, tu fais de la politique des fois,
oui.
la Marseillaise et tout, oui, ça, c'est ça. Hyper politique. Et le côté bouffon du roi qu'on a historiquement dans la tête de tous fait qu'on nous prend pas effectivement au sérieux quand on défend quelque chose. On dit genre, ah, fais-moi une blague, fais-moi rire. Et en fait, moi, je suis pas drôle du tout dans la vie. Hein. je me relève. C'est vrai, je suis beaucoup moins drôle dans la vie que sur scène parce que
les gens sont très étonnés parce que la plupart des humoristes sont hyper calmes. En fait, on est des gens, on aime bien les conversations, On aime bien les échanges d'idées.
Se prendre la tête.
Exactement, c'est souvent plus philosophique. Ouais. Et les blagues, on les trouve après, souvent. C'est pas la blague qui prime. Bien sûr, quand on trouve une blague trop marrante comme ça, la blague, le paix sur les genoux de l'homme, machin. Une blague de paix, c'est toujours rigolo. Il y a vraiment... Moi, ça me fait rire, ça me fera toujours rire. Mais il y a beaucoup de blagues qui naissent juste de conversations ou d'idées un peu philosophiques qu'on a envie de montrer. Et on se prend la tête pendant des semaines à essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être drôle là-dedans.
Ça me fait penser à chaque fois que je suis avec quelqu'un qui connaît pas les humoristes personnellement et qu'on se retrouve dans un cadre où en fait on a l'occasion de voir les humoristes personnellement, c'est-à-dire à discuter avec eux hors scène, machin. À chaque fois, la personne me dit
pas très drôle.
Ouais, je les imaginais plus marrants. J'imaginais plus marrants. Il était pas en forme ce soir-là.
Ouais, mais c'est peut-être les mêmes genres de personnes qui pensent que Beyoncé, quand elle commande des sushis, elle chante. Tu vois. Elle dit allô, je voudrais.
En fait...
Que là, elle dit putain, c'est chambé.
Non, mais je peux comprendre ce truc.
C'est
tu
une
vois.
Performance.
Oui,
c'est une performance.
C'est une performance, mais je veux dire, il y a plein de gens qui sont drôles dans la vie de tous les jours, tu vois.
Absolument.
Et c'est juste que je me demande, et même moi, je sais pas trop, tu vois, est-ce que c'est parce que en faisant de l'humour son job, et ben du coup, en temps normal, ça nous fait du bien de pas essayer d'être drôle, tu vois. Ou est-ce que
ou est-ce qu'on est dépressif? Réponse 2. Non,
ouais,
mais...
franchement ouais mais le ouais, pardon, je suis allé, continue.
J'ai vraiment rien d'autre à dire.
Ok, moi je pense que il y a énormément de gens qui sont très très drôles que je peux croiser. Après, là on va parler de cas de ma vision. C'est pas du tout la réalité, c'est pas la vérité, c'est juste que moi ce que je pense, ma perception personnelle. Perception personnelle, c'est que moi je peux croiser des gens extrêmement drôles dans la vie qui me font hurler de rire, mais vraiment. Et quand je leur dis mes gars, t'es beaucoup trop marrant, monte sur scène, eh ben non, ils veulent pas parce que pour eux c'est pas suffisamment important ce qu'ils ont à dire pour aller risquer tous les problèmes que découle le fait de monter le dire devant 100 personnes. Mais pour nous c'est important d'aller raconter nos blagues. Alors effectivement, je sais pas pourquoi les gens qui sont hilarants à table ou en train de kiffer dans la vie n'ont pas forcément cette envie et trouvent pas ça très très important au point d'aller le défendre, ce qu'ils disent à table sur scène. Mais à l'inverse, il y a des gens qui peuvent être très timides. Je suis hyper introverti. Moi j'ai envie de raconter ma blague avec mon tigre qui fait de la comptabilité.
Ouais.
Pour moi, ça me fait vraiment vraiment rire. Et j'ai besoin de connecter avec les gens pour savoir si j'ai un problème ou si c'est vraiment marrant.
Ouais, ce que tu disais une fois, ça m'avait marqué, tu disais le rire, c'est vraiment que les gens te prouvent qu'ils comprennent.
Oui, c'est ça.
Que vous êtes ensemble. C'est vraiment ce qu'on cherche en tant qu'humoriste un peu autiste, c'est vraiment ce truc-là de on se comprend entre êtres humains.
Exact.
Ouais, c'est aussi absurde pour toi que pour moi, on est d'accord.
Exact.
Tu vois.
Il y a une sensation de censure qui est... je remarque que des gens, justement, ils se disent, tiens, ceux qui nous comprennent se censurent. C'est ça qui est bizarre. Et ceux qui ne nous comprennent pas se censurent pas du tout. Alors, ceux qui captent que t'es pas obligé d'être tout le temps marrant, par exemple, ils te croisent dans la rue, ils aiment bien ton travail, souvent, ils vont lutter contre eux-mêmes, ils vont être très timides, ils vont dire « je veux pas te déranger, je voulais juste te dire, tiens, c'est sympa, je t'ai vu sur telle scène » ou je sais pas quoi, alors que toi, t'es trop content parce que tu sens bien qu'il y a du respect, alors que les gens qui ont zéro respect ne se censurent absolument pas, et ils t'attrapent par l'épaule, et ils tirent, et ils parlent mal, et ils te traitent comme si t'étais leur ami, mais pire que leur ami, en fait, tu leur appartiens. Et c'est ce paradoxe-là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas pourquoi.
C'est génial. Bah oui, mais c'est, en même temps, moi, c'est vrai que si les gens que j'aime bien, par exemple, je n'irai pas les voir, c'est ma personnalité. Donc le public qui me ressemble, il fait la même chose que moi, il vient pas, mon vrai public ne vient jamais me parler. Et c'est les gens qui viennent me parler, c'est toujours les relous qui m'ont vu à la télé. Ils sont là, et en fait, ils s'en foutent, ils veulent juste leur photo avec la télé.
Ouais, ils veulent la caméra.
Ils s'en foutent de Charles Wayne.
Bien sûr.
On m'a déjà pris en photo.
C'est une sorte de Pokémon, tu vois.
Ouais, exactement.
Ah, j'aime bien ce Pokémon.
Mais alors, ça, mais moi, le pire qu'on m'a fait, c'est j'ai déjà été pris en photo. Sans que je dise bonjour. C'est d'accord pour
ça,
faire la
horrible.
Photo. C'est-à-dire
enfin,
que j'ai dit à une personne, j'ai dit à une personne, excuse-moi, j'étais en train de donner un tract, j'étais là, excuse-moi, je finis ça et on fait la photo, promis, comme ça on se met bien et tout, il y a de la lumière et on fait une jolie photo si tu veux une photo. C'est lui qui me fait ouais, d'accord. Et il y a un deuxième gars qui est arrivé qui m'a pris en photo sans rien demander. Il m'a directement pris en photo comme vraiment comme s'il était devant un décor. Et donc il a pris en photo et moi j'ai pas eu le temps. J'ai fait et donc l'autre, le numéro 1 s'est fâché. Il est revenu et il a dit dit, bah lui, il a eu sa photo volée, bah je fais la même chose. Et il l'a fait. Et j'étais là, waouh. Là, vraiment, je me suis senti mal. Je me suis senti sale, en fait.
Ah là là.
Et là, il y a un truc marrant, c'est que souvent les mecs ils parlent de toi devant toi.
Oui.
Ah, tu connais, tu connais pas. Mais comment tu connais pas? Elle est marrante, elle est marrante de ouf. Oh, là, et toi, t'es là, je suis là.
Ah, c'est hyper gênant.
Je suis toujours là.
Moi, ça m'est arrivé dans le métro entre deux stations. Tu sais, tu peux pas partir, t'étais là, tu dis putain, tu regardes, tu dis bah je vais sortir la prochaine. Je sais que je dois pas aller là, je dois aller beaucoup plus loin, mais c'est pas grave, je vais sortir, je vais faire un tour.
15 minutes de retard.
Et je vais rentrer dans ce métro, tu vois.
Parce qu'il y a cet élément-là qui est vraiment particulier à la comédie. Après, je connais pas, je traîne pas beaucoup dans d'autres milieux artistiques. Mais
c'est les trapézistes, c'est pareil.
Les trapézistes, ouais, c'est pareil. Il y a des trapézistes stars et des trapézistes. Il y a des trapézistes qui crédibilisent votre art et d'autres vraiment.
Plus, les autres pas ouf.
Il y a ce qu'on appelle les trapézistes de table ou pas. C'est-à-dire qui sont super bons trapézistes, mais pendant les fêtes ou à table, au repas de famille.
Ils sautent d'un canapé.
Alors quand tu leur dis sois trapéziste vraiment, va dans un cirque, ils disent non.
Ils n'osent pas. C'est mon combat.
J'adore. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est très tranché. C'est ça qui est particulier à l'humour et qui fait l'avantage et en même temps le gros défaut, c'est que les gens ils t'aiment beaucoup ou souvent ils t'aiment pas du tout du tout. Et ouais. Moi par exemple comme je fais de l'humour absurde on va dire, les gens ils peuvent ne pas accrocher, mais c'est un sentiment violent. Moi je sais que quand il y a une forme d'humour que j'aime pas du tout sur scène, je me sens pas à l'aise dans la salle. Je veux que ça s'arrête parce que je vis un moment pas agréable. C'est normal, tu vois. Du coup, dans les rencontres avec le public dehors, on a vachement ça qui ressort. Quand ils aiment quelqu'un, c'est vraiment ah, lui, c'est ah, je l'ai. Quand ils aiment pas, c'est ah, je le. Hey. Tu vois, il n'y a pas de ah, c'est cool. Tu vois,
mais dans la rue, t'as ça?
Ouais,
t'as des gens qui peuvent te dire.
Ouais, il y a des gens qui me disent ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc, des fois, il y a le rapport de je vais tout te raconter de ce que j'aime dans l'humour et je vais te dire qu'un tel je l'adore et que l'autre je l'aime pas. Et comme on fait un métier où il y a du jugement, et ben leur avis il est hyper tranché. Et nous, avec le temps, moi avec le temps, je parlerai pour moi. Au début, j'avais aussi un avis assez tranché sur les formes d'humour, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai appris à utiliser un vocabulaire qui est plus positif pour parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, tu vois. Parce que je sais la difficulté que c'est. Et souvent, quand les gens critiquent le stand-up, et quand ils en font une fois, moi j'ai animé une soirée qui s'appelle Première fois, qui est une soirée qu'on a créée avec Emilien Bernot. Il y a des gens qui ont fait du stand-up pour la première fois.
Tu l'as dit au passé, genre.
Non, là c'est une pause, on va la reprendre.
D'accord.
On est en train de faire pour la reprendre. On va reprendre la soirée, c'est une bonne soirée. On aime beaucoup Première fois.
Soirée dans la question, ça fait un passage.
Absolument. Et d'ailleurs, tu pourras parler de ton ressenti. Je pense que la soirée, les plus beaux moments que j'ai vécu, c'est les gens qui n'avaient jamais fait de stand-up, que j'ai réussi à encourager pour en faire, ou qui se sont décidés grâce à la soirée, et qui ont totalement changé d'opinion vis-à-vis des humoristes, et qui ont maintenant, souvent, dans 99% des cas, 1000 fois plus de respect pour les comiques, parce qu'ils savent ce que c'est, et ce que ça demande comme travail, comme motivation et tout ça.
Si je peux me permettre, c'est un peu tous les métiers qui sont comme ça, c'est-à-dire que, enfin, je veux dire, souvent, essayer le truc, ça te permet de respecter plus la personne qui le fait derrière.
Bah ouais, mais c'est comme critiquer un plat avant le. Enfin, tu vois, du moment où t'as pas cuisiné, tu peux dire ok, c'était pas si dégueulasse en fait ce qu'elle a pas mangé. C'est pas bon.
C'est comme avant de passer le permis, tu sais, quand t'es tout le temps du côté passager, tu sais.
Ouais.
Tu dis, oh,
tu dis ce qu'il faut faire.
Il se gare pas très bien. Il y a un moment où t'es devant le volant, t'es là, ok.
Il se garait bien.
Ouais, grave.
Juste, il y a un mot que je trouve intéressant que vous avez utilisé pour parler de votre métier. C'était la notion de monter sur scène pour défendre des choses. Pourquoi vous utilisez ce mot-là particulièrement?
Tu veux dire le mot défendre?
Ouais. Plus que des choses.
Parce que c'est
la guerre. Non, mais
c'est pas la guerre.
Pour vous, quand vous faites ça,
vous avez
vraiment parlé de conviction.
Moi, je dirais défendre parce que, en fait, on a des blagues en tête. Donc, en fait, on veut un résultat, on veut faire rigoler les gens. Des fois, c'est pas marrant, juste. Donc, en gros, ce que je pense être intéressant, je dois le proposer de la meilleure façon. Donc, c'est pour ça que je parle de défendre. On peut utiliser ça pour défendre un film ou défendre ce que vous voulez. Mais c'est juste, je dois essayer de le proposer avec de la meilleure façon possible pour toucher les gens, me faire comprendre et donner un point de vue qui soit personnel et que ce que j'ai en tête, la blague, soit livré de la meilleure façon. Et des fois, ça demande du courage parce que tu as vite fait de te décourager au milieu de ton setup, du début que tu racontes ta blague, de la mise en place et de dire « Oh putain, elle va pas passer ». Parce qu'il y a un truc de physique qui se passe sur scène. C'est-à-dire que c'est pas que intellectuel. Le meilleur stand-up du monde dans sa chambre, Il n'est pas face à des gens qui réagissent. Et il y a un truc mental, psychologiquement, ton cerveau, il te dit, il faut partir. Il y a des gens qui sont en face de toi, ils ne bougent pas. Ça sent le roussi. Dégage.
Je te force à faire ça.
Non, mais il y a un truc reptilien dans ton cerveau qui te dit, t'es pas du tout dans une bonne position. Il y a beaucoup trop de monde en face de toi. T'es tout seul. Pourquoi t'es pas avec le groupe en face? Ouais. C'est quoi? Il comprend pas. Le cerveau primitif, il capte pas. Et t'es obligé de lui dire, non, mais on est en 2019, je raconte des blagues. Je suis pas en danger immédiat, il y a pas de problème. Pourtant, lui, il te dit, tu n'as rien à faire là. En plus, on voit très mal, la visibilité est réduite parce qu'il y a les projecteurs, on comprend rien. Et honnêtement, il faut croire en ce que tu fais et il faut avoir très envie de connecter avec les gens. Il faut, quelque part, vraiment bien aimer les gens. Pour aller au bout de ta blague qui peut-être va finir par un beat.
À combien de pourcents vous prenez vraiment en compte les réactions des gens? Ça rentre dans votre jeu, vous y faites attention, ça
compte
dans votre
rythme?
Ouais, ouais, c'est précis.
Ouais, j'aimerais bien, ouais.
79.
Tu peux t'arrêter à la troncature, t'es pas obligé après de.
Non, mais déjà pour parler, revenir sur la défense, ouais, l'utilisation de ce mot, ouais, la première partie de ta réponse, elle est là. Je veux compléter en disant, il y a un truc aussi, c'est qu'on a l'impression d'être sur un ring de boxe, je sais pas si t'as déjà fait de la boxe, mais le côté, genre, il faut esquiver, remettre un coup, mais qui est pas forcément méchant.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Mais c'est un coup de punch, qu'on appelle une punchline, une blague. Ouais. Mais c'est un coup de poing, quoi.
Ouais.
Et donc, il y a ce côté, il faut esquiver tout le temps les mauvais moments, le moment justement de silence. Ok, revenir, se relever, un camion, tu te relèves, c'est pas grave. Je l'ai dit, ok.
C'est bon.
mais c'est vrai.
Et puis, il y a le côté se défendre, parce que je crois, je vais faire un peu de philo et de psychanalyse, mais on parlait de dépression, etc. Mais je crois qu'un humoriste, c'est quelqu'un qui se sent attaqué quand même en permanence. La vie, elle est. Enfin, l'être humain se sent attaqué en permanence. Donc, oui, c'est la guerre. C'est une guerre psychologique, une guerre pas forcément avec des armes, mais je crois qu'on défend aussi le fait d'exister, quoi.
Okay. Ouais, c'est une rébellion.
Ah, c'est fort, ça.
C'est ça.
Ouais, j'ai senti en même temps que je l'ai dit, j'étais là, oh putain, il y a quelque chose.
Ça a enchaîné très vite, mais j'aimerais qu'on prenne un petit moment, une petite respiration. C'était propre.
Ouais, ça va. Et du coup, comment vous gérez un bide? T'en as parlé un peu, Yacine, parce que j'imagine
c'est
le pire truc.
Honnêtement, ouais. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de problèmes dans la vie. Hein. Mais pour un humoriste, les bides, c'est vraiment très dur. Et c'est ce qui motive aussi. Il y a Joe Rogan, qui est un humoriste américain, qui a un podcast aussi, qui dit souvent que lui, il a fait beaucoup, beaucoup de sports de combat. Mmh. Et il dit que c'est pas la même peur, c'est pas le même stress, mais qu'un bide, c'est une douleur psychologique vraiment forte. Et c'est une douleur qui est là finalement, et il faut la vivre parce que ça te motive à ne plus revivre cette douleur. Ça te dit, bon, je me suis tapé un bide, j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Il faut que je trouve des meilleures blagues, en fait. Il faut que je me démerde pour faire ça mieux. Après, le bide, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas en avoir, parce que ça veut dire que tu cherches des nouvelles choses auxquelles les gens sont plus habitués. Et puis, ça permet aussi d'explorer. Donc, si tu tapes un gros bide, c'est peut-être que tu es inexpérimenté, mais c'est aussi peut-être parce que tu proposes des idées qui ne sont pas habituelles et que donc, il faut trouver une nouvelle forme pour ces idées-là. Et du coup, c'est une plus-value après d'être original. Donc, c'est vraiment...
Ou alors, c'est parce que t'as trop mangé.
Ouais, ok. Je l'ai.
Tu l'as.
Ouais, j'ai compris.
Vous l'avez?
On l'a trop. Mais le bide, Moi, avant, j'appelais des bides au début quand j'ai commencé. Désolé.
Non, il n'y a aucun problème.
C'est trop tard.
C'est fini. Il vit. Ce monstre vit maintenant. Il faut se débrouiller avec.
Il est là. Avant, quand j'ai commencé, genre, je dirais les 5 premières années de scène, j'appelais ça vraiment des gros bides. Parce que tu sais, en plus, c'est la musicalité qui va avec ce truc où t'attends vraiment que les gens rient. Parce que limite, sur ton texte, t'as écrit rire.
Ouais, c'est vrai.
Entre parenthèses.
À ce moment-là, ils vont bien se marrer. Ouais. Ça met 5 minutes pour boire.
Ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment la grande inconscience qu'on a, nous, quand on commence, de se dire tout est marrant, on est excellent, etc. Et t'arrives sur scène et t'es vraiment pas excellent. Et les gens te disent non. Et ça, pour moi, c'est un bide parce que t'as trop anticipé de choses qui ne sont jamais arrivées.
Ouais.
Maintenant, je dirais que c'est plutôt des fausses notes. Genre, aujourd'hui, je ne parlais pas d'un... On n'a jamais eu maintenant des beats de 5 minutes, 10 minutes. C'est difficile d'avoir ça. Je dirais que c'est plutôt genre un courant qui ne passe pas. J'aurais tendance à appeler ça comme
pas
ça. Ou une fausse note. Tu vois, un petit échec. Mais au final, avant, en tout cas, personnellement, je racontais des blagues qui étaient vraiment des blagues pour des blagues. Et à un moment donné, j'ai effectivement défendu des idées. Ce qui fait que quand c'était plus drôle, je me dis, ah, au pire des cas, t'as entendu une idée intéressante.
Voilà. Oui, voilà.
Et donc, c'est plus un gros bide. C'est le gros truc de, bah, c'était juste une blague et voilà.
En tout cas, le bide est quelque chose qui fait partie totalement de la vie des humoristes. Donc, franchement, c'est quelque chose à essayer. Et je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre avant. C'était toujours du plaisir. J'ai jamais eu de déplaisir sur scène avant. de connaître mes premiers vrais bides, où c'est humiliant.
Donc c'est sucré salé, du coup, t'as plus que le.
Non, mais amer. C'est pas amer.
J'irais pas sucré. Ouais, alors sucré, c'est ça. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est pas assez fort. C'est ouais. vraiment.
Yacine, tu m'avais dit à une soirée qu'on s'était. Il y a quelques semaines, je t'avais dit qu'avec Tom, on avait un projet, machin.
Ouais.
On va peut-être en reparler plus tard, mais en gros, tu m'as dit, on parlait du bide, et tu m'as dit, mec, c'est comme si. C'est de l'humiliation pure.
Oui.
C'est-à-dire que c'est comme si tu croquais dans l'humiliation
ouais.
et ça se dissout avec ta salive.
En fait, c'est comme si tu mangeais une bonne pêche bien fraîche d'humiliation. Tu vois, tout ouais. le jus de la pêche.
Ouais.
Non, en fait, la difficulté, c'est qu'on est tous différents les uns des autres. Et je pense qu'il y a des gens qui ont plus de force de caractère. Donc, tout dépend de la façon dont tu vis dans la vie. En revanche, on a aussi un avantage incroyable, c'est que quand on a un passage qui marche, si tu fais 15 minutes et que tu es totalement compris par les gens, que tu passes un bon moment avec le public et que tu t'éclates, le plaisir qui vient avec ça est aussi quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Donc, les deux sont là. C'est vraiment comme de la drogue, en fait. C'est que tu as des montées de drogue qui sont inexplorées pour moi. C'est-à-dire, mon cerveau, il envoie je sais pas quel truc. Je sais pas si c'est de la dopamine ou de je sais pas quelle hormone il envoie, mais elle est incroyable. Par contre, quand il y a du bide, il envoie l'autre truc qui fait que vraiment, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Et avec le temps, grâce aux autres copains comiques et en voyant que tout le monde un peu fait pareil, bah t'apprends à accepter, puis t'avances, ça devient un métier quoi.
Est-ce qu'il y a un spectacle, un artiste, une œuvre ou un truc qui a créé un déclic qui vous a donné envie vraiment de vous dire putain c'est trop cool,
on commence à rentrer dans le vif du
j'ai
sujet.
T'as vu comment j'arrivais comme ça. Est-ce qu'il y a un truc en particulier où vous avez dit Shirley ou Yacine?
Moi, il y a vraiment le spectacle que j'ai vu avant de faire du stand-up. Je savais pas ce que c'était. J'ai vu ce spectacle et j'ai dit je veux faire ça dans ma vie.
Celui-là,
c'est le spectacle de Jerry Seinfeld qui s'appelle
Jerry,
I'm Telling You for the Last Time, qui est disponible sur Netflix et qui date de 1999. Qui est le spectacle où j'ai vu un mec arriver en costard sur scène et il était tout seul. À cette époque-là, il faut bien comprendre qu'en France, nous, c'était quand même le monde des personnages, du sketch.
Ouais, c'était très marginal encore, cet art-là.
Ça n'existait pas. Moi, je disais stand-up, les gens disaient quoi ? De quoi tu parles ? Il y a eu un débat à un moment donné. Est-ce que
c'est nous ?
Exactement.
C'est un courant d'Eurodance.
Non, mais vraiment, c'est ça. Et il y a eu un débat à un moment donné avec Alexis Macquart. On a beaucoup rigolé. C'était, faut dire, le stand-up ou la stand-up ? Parce que c'est stand-up comédie.
Même débat sur le Wi-Fi.
La comédie de stand-up ou le stand-up en lui-même. Donc, c'est très rigolo. Finalement, c'est le masculin qui l'a emporté. Je crois, parce que tout le monde dit le stand-up. Mais à cette époque-là, voilà, j'ai vu Jerry Seinfeld arriver. J'ai dit, je faisais beaucoup de théâtre, j'aimais beaucoup le théâtre, j'écrivais des bouts de sketch, j'aimais bien les Robin des Bois. Ça a été, j'adorais ça. J'adorais voir du Saturday Night Live à la télé, ce genre de choses. Américains aussi, qui, comme la série Seinfeld en elle-même, je trouvais ça cool. Le dessin animé Futurama. Tous ces univers-là étaient beaucoup plus absurdes que ce qu'on pouvait trouver généralement en France. Les Robin des Bois ont été super absurdes, donc ça nous a fait vraiment du bien. Enfin, moi, ma génération, on était là, oh, c'est cool, ils font n'importe quoi, c'est trop bien. Eric et Ramzy aussi, c'était n'importe quoi. Mais il y avait beaucoup de sketch. Et Jamel, d'ailleurs, dans son premier spectacle, devait faire moitié sketch, moitié stand-up. Et moi, je l'avais vu en live, son premier spectacle, quand j'étais jeune, et je ne comprenais pas. Et il arrivait, il parlait. Et je disais, ah, il est trop marrant, mais...
C'est 100% de bouse ou
100%
c'est
un... de... Non, celui d'avant, c'est Jamel en scène.
Jamel en scène.
Ben, pour ceux qui peuvent.
Avec le Nutella.
Avec le Nutella, d'accord. Je ne me souviens plus du Nutella, mais en fait, il y avait le sketch de Petit Papa Noël.
Ouais.
Et comme il était à Canal+, et tout, c'était trop bien, tu vois. Nous, le voir en vrai, déjà, c'était fou. Mais... pendant les 20 premières minutes ou les 30 premières minutes, je ne sais plus, il fait un long passage de stand-up qui est très drôle. Et après, en fait, on riait dans la salle, je me rappelle. Et puis, c'est vrai qu'on ne comprenait pas pourquoi on riait, mais il y avait un truc de bizarre. Et après, il nous a dit, mais attendez, vous inquiétez pas, je vais faire des sketchs. Parce que vraiment, le public se disait, mais putain, il ne commence pas le spectacle, quoi. Le spectacle ne commence pas. Pourquoi il n'y a pas de lumière, tu vois ? À l'époque, il y avait une vraie plus-value de dire, il y a des effets lumineux, il y a des effets sonores, tu vois, il y a des noirs. Et le stand-up, c'est juste un mec, une heure, un micro qui parle, un mec, une meuf, hein, une personne, un être humain, avec un micro qui parle. Et Jerry Seinfeld, je l'ai vu et j'ai dit, putain, ça a l'air d'être le truc le plus dur du monde, j'aimerais bien essayer de faire ça.
Shirley, il y a une œuvre, toi, un truc qui t'a marqué plus qu'un autre, qui t'a dit, je veux faire ça.
Par rapport au stand-up, complètement, en fait, moi, l'humour, quand j'étais plus jeune, je regardais Eli Kaku, j'adorais les Tex Avery et tout. Et quand j'ai découvert le stand-up, c'est en commençant l'humour, j'avais déjà commencé, j'étais déjà au Jamel Comedy Club en fait.
Ok. T'en as fait avant de savoir ce que c'était, quoi.
Je savais pas ce que je faisais. Moi, je voulais faire des blagues. Là-bas, je dis je vais faire du R&B, on m'a mis au Jamel Comedy Club. C'est juste que je savais. En fait, c'est marrant quand un truc te dépasse. C'est-à-dire, tu le sais avant, tu peux pas le nommer. Mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc en fait, je vous explique. Donc je connais Baptiste Le Caplin, Kian et tout ça. On se connaît, on commence à s'échanger des vidéos, des disques durs. C'est Kian en fait qui commence à donner des disques durs à Baptiste, je crois. Puis
des
Baptiste...
disques durs, carrément.
Des disques durs, ouais, de stand-up américain.
C'est vraiment un pitch de film qui commence.
Ah, ouais, c'est clair, mais c'est dans quelle année?
Le disque dur.
C'était quoi, il y a 10 ans?
Toutes les blagues du monde sont dedans.
Il y a 10 ans, un truc comme ça. Et il y avait George Carlin dedans. Je sais plus quel spectacle de George Carlin il y avait dedans.
Il était vieux?
Il était déjà vieux, mais les meilleurs spectacles étaient déjà vieux. Bah, ouais. Pas très très vieux, il avait 60 ans, je pense, ce spectacle.
J'adore
c'est
ce
celui
mec.
Où il y avait les grandes marges, comment il s'appelle. Bon, bref, en tout cas, j'ai halluciné sur son écriture et son flow. Et j'étais, c'est exactement ça que je veux faire. C'était ça que je voulais, je savais pas ce que. Ouais. Je l'avais pas vu avant. Mais comme plein de choses en France, hein, y aurait pas beaucoup d'identification pour moi.
C'est vrai.
Tu vois, donc du coup, il faut les inventer, il faut les. Puis je m'écoute vraiment très fort au fond de moi, donc j'ai réussi à trouver un truc sans savoir ce que c'était, quoi. Parce que je me disais, je suis pas loin de faire du stand-up.
C'est ça.
C'était un hybride, quoi. À l'époque, j'avais des idées, je voulais les défendre, mais je jouais beaucoup sur le côté, je sais faire des personnages, regardez, je peux faire ça, je peux faire ci. Et le jour où j'ai compris que je n'étais pas obligé de faire tout ça, j'étais là, j'arrête.
les trucs, on n'est pas obligé, en fait.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est deux métiers différents pour moi, parce que j'ai une famille de comédiens. Quand j'étais jeune, je faisais des téléfilms, des pubs et tout. Et vraiment, pour moi, c'est un taf à part entière d'être acteur. C'est pas du tout ce que je voulais faire en montant sur scène. Je voulais pas être une actrice qui monte toute sa palette de personnages. Je voulais écrire des choses, parce que j'adorais écrire depuis que je suis gamine, et que je sais que j'ai toujours des idées que j'ai envie de défendre, quoi. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, ce métier existe en fait, il existe.
Du coup, Cyrus a dit qu'on allait arriver à la discussion fatidique.
Toi, Tom, il y a un spectacle qui t'a marqué, toi
un
spectacle de stand-up, je veux dire.
Un spectacle de stand-up, bah, en vrai, c'est vrai que je pense que le premier spectacle de Jamel, je me rappelle avoir eu la VHS pour un Noël.
Ah ouais.
Et c'était l'époque de H et tout, c'était l'époque où ce truc-là était un peu nouveau. Et effectivement, moi je vais avoir 30 ans. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait cette génération où je pense que grande sœur, Daron et tout ont eu les nuls, les inconnus, qui étaient des trucs assez forts. Nous, on arrivait dans les années 90. Il n'y avait pas un truc très fort, une entité d'humour. Effectivement, c'était un peu les vieilles figures avec des guillemets qu'on voyait à la télé et tout. Et c'est vrai que la génération H, au sens large, est arrivé et c'est un truc qui était hyper fort, quoi. Enfin, moi je me rappelle, qui fait grave ça, il y a eu le Burger Quiz derrière et tout. Enfin, c'est l'humour Canal finalement, qui était un peu précurseur de tous ces talents-là.
Est-ce que, tu vois, genre, ça t'a donné envie
d'en faire, je veux dire. Non, après, moi, c'est pas ma vocation et c'est pas mon métier. J'aime beaucoup le stand-up. J'ai un attrait assez fort pour les choses humoristiques au sens large, de différentes formes d'écriture et tout. Mais je me rappelle que cette cassette, je l'ai beaucoup maté et je me suis dit, ok, putain, c'est fort, quoi. Le mec, crée de l'humour à partir de rien. Il n'y a pas besoin de jouer de trucs et tout. Ouais, ok. Et ça, ça m'a bien marché.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des spectacles où, genre, je me suis dit, ah, c'est cool, et je les ai vraiment consommés en tant que spectateur. Et
parce que toi, t'as envie de monter sur scène aussi beaucoup.
Ouais. Mais par exemple, je me souviens qu'au tout début, il y avait 100% de booze que j'avais maté. Je trouvais ça trop drôle, trop marrant. Machin.
La vie normale de Gad aussi.
Gad Elmaleh, avec le blond, le machin et tout.
Incroyable.
Je trouvais ça marrant et tout. Et en fait, je crois que c'est au moment où c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Genre, je suis tombé, ça devait être Louis C.K., je pense. Mais genre, à un moment, un stand-upper qui racontait des choses où je me suis dit. Ah, j'avoue, j'avais jamais pensé à ça comme ça.
Ouais.
Tu vois, genre, c'était peut-être par exemple à un moment, il parle des enfants qui ont des allergies alimentaires aux arachides,
Ouais,
tu vois. Il dit si une arachide, enfin si une amande te tue, peut-être que t'es censé mourir. En fait,
c'est ça.
Et genre, et tu sais, j'ai trouvé ça trop cool d'apporter une idée. Donc c'est ce qu'on dit tout à l'heure, donc défendre des idées. Et là, je me suis dit, putain. Vas-y, ça me parle en fait.
Oui,
et là, je me suis dit, projeté à pouvoir, tu vois, peut-être un jour me dire, vas-y, j'ai envie d'y aller, etc.
C'est ce qui est bien en ce moment, c'est que les gens, en général, commencent à désidentifier le stand-up au côté urbain. C'est-à-dire que quand on a commencé avec le Comedy Club, les médias ont vraiment mis l'accent sur le fait qu'on venait, enfin, il y en avait plein qui venaient de banlieue, et donc les gens avaient du mal, je pense, à s'associer à ça, et moi je sais ça parce qu'on me le répétait souvent, on me disait la banlieue. Moi, j'étais là, ok, mais pas du tout, nous on défend quelque chose qui est raconter des blagues, mais en son propre nom, c'est-à-dire en disant, hier, je me suis baladé, il m'est arrivé ça, et pas avec un personnage, pas en disant, bonjour, je suis Michel, je fabrique, je sais pas, des échiquiers, et j'habite dans le Tarn. Pas du tout. C'est toi qui parles. Et là, les gens commencent à le faire eux-mêmes. Et donc, un bon stand-up, ça peut être vraiment une dame de 85 ans qui raconte sa vie de dame de 85 ans.
Finalement, avec du recul, je pense que c'est aussi la ligne éditoriale qu'a donné le Jamel Comedy Club à Canal+, ils ont tout travaillé, toute l'image pour que finalement on ne ressorte que ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça se passe une prod, ton dossier de prod, comment tu le fais, etc. Je pense qu'ils ont vraiment vendu des Smarties en disant
ouais, toutes les couleurs, ça va être trop bien.
Et après, dans la tête des gens, toutes les couleurs, ça veut dire la banlieue. Et ils le savaient très bien aussi, je pense.
Ouais,
et
je pense.
Tant mieux quelque part que ça ait pu. Mais c'est dommage qu'on.
Puis il y a beaucoup de blagues communautaires aussi. C'est-à-dire que genre il y avait. Genre, je me souviens, donc je ne l'ai pas encore fini, mais alors que c'est vieux, hein, mais il y a Inside.
Inside
Jamel Comedy
Club. Trois fois, moi.
Qui est génial. Que,
La série préférée française.
En fait,
Tom
en a parlé très récemment.
Parce que Aurélien Prévost m'en a parlé aussi. Il y a une boucle qui se met en place.
Et donc, j'en suis à l'épisode 3 sur 5, je crois, un truc comme ça.
C'est sur YouTube, je ne sais pas si c'est posté avec les vrais droits et tout. Je ne sais pas si on peut.
Je ne sais pas pourquoi tu le dis en me regardant, parce que ce n'est pas moi qui l'ai posté. Mais j'encourage tout le monde à aller voir Inside sur YouTube.
Tu as écrit, tu étais
auteur. Moi, je n'ai pas écrit, mais on improvisait des trucs. Et en fait, j'étais sur le tournage, je fais partie de l'équipe. Vous allez voir un moi bien plus jeune et bien plus fresh.
C'est une sorte de The Office pour les gens qui connaissent pas.
C'est de la balle. C'est de la balle.
Documentaire.
On le mettra en description.
Ouais.
Mais en gros, il y a un moment où il y a Fred qui fait des vannes avec l'accent chinois.
Ouais.
Et qui à un moment arrête de faire l'accent chinois.
Ouais.
Et du coup, les gens lui disent non, mais mec, on veut l'accent chinois.
Ouais.
Et en fait, effectivement, j'ai l'impression que le stand-up d'il y a, je sais pas, une dizaine d'années était vachement plus communautaire et
que ça. Est-ce que c'était genre les blagues à l'époque elles étaient communautaires ou est-ce que le monde de l'époque était différent d'aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'on n'a pas évolué un peu plus, tu vois? C'est pour ça aussi, je pense que je trouve que c'est sain, mais c'est pas totalement juste de comparer le matériel de l'époque
Bien sûr, c'est pas du tout une critique
de l'humour que l'on statue. C'était une critique.
Ah non, mais moi je te dis.
Pas très à l'aise.
Non, c'est pas du tout une critique. C'est juste pour montrer à quel point l'humour en France a évolué et le stand-up a évolué. Genre aujourd'hui. On s'attendrait.
On parlerait pas d'âge d'or.
C'est vraiment. Enfin, moi, en tant que spectateur, de ce que je vois des gens qui font du stand-up et qui sont plus jeunes que moi et qui ont commencé après moi, ils sont incroyables et ils sont super bons. Et je pense que, honnêtement, de ce qu'on parlait tout à l'heure, on peut citer les mecs qu'on a cités tout à l'heure, mais il y en a des dizaines.
Paul Mirabel aussi, il vient d'arriver, il est excellent.
Ils sont très très bons. Je pense justement, effectivement, ils vont apporter justement ce regard-là de cette génération qui est plus jeune que moi, qui a 10 ou 15 ans de moins et qui commencent vraiment jeunes et ils ont des endroits où jouer. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas à la mode du tout. J'ai commencé en 99 et j'ai fait une pause de 5 ans. Parce qu'en 99, j'ai joué au Bec Fin, ça s'appelait. Et c'est devenu un restaurant coréen, pour vous dire que ça, le monde a changé. Et c'est rue Thérèse. Et en fait, le Bec Fin, je me suis tapé un vrai bide. Et j'ai fait, mais en fait, il y avait des gens avec des perruques qui ont eu des rires, mais ils n'avaient aucune blague. Les perruques et les boas.
Stylé quand même, les perruques.
Et c'était des hommes qui avaient mis des perruques et ils faisaient, je sais même plus c'était quoi les gags, mais ils faisaient des mimiques et les gens étaient morts de rire. Il y avait deux personnes dans la salle aussi. Il fallait convaincre deux personnes.
C'était les amis du gars en perruque.
C'était les amis du gars en perruque. Non, mais je crois que c'était des touristes étrangères en plus. Bon, bref, c'était une soirée très chelou. Et le mec à la fin m'avait dit non, mais revenez, jeune homme, revenez. Genre, on sait jamais, il y a peut-être. C'est pas mal, tu vois. Et moi, j'avais tellement été violenté par le bide que je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour moi, je vais pas faire ça. C'est bien trop difficile.
T'as commencé par un bide.
Ah, j'ai commencé mon premier, c'était un bide. Après, j'ai fait 5 ans. Ensuite, un texte qui a super bien marché, le même que j'ai fait, enfin, des trucs sur la politique et tout. Et après, mon deuxième, c'était re-un bide. Parce que chaque mois, il fallait écrire un texte
un nouveau.
Truc. Et il fallait que ce soit nouveau en entier parce que les 40 personnes qui étaient venues le mois d'avant, elles reviennent, c'est les mêmes. C'était à Saint-Denis, à côté de la basilique de Saint-Denis. C'était au Café culturel de Saint-Denis. Il y a Grand Corps Malade qui a commencé là-bas. Il y a plein de gens qui ont commencé là-bas. Et maintenant, c'est une crêperie. Et on faisait des soirées là-bas. Je peux dire qu'il y a des gens qui sont très connus maintenant, qui ont commencé là-bas. Si on débarque tous à la crêperie, je pense qu'ils vont être contents, les gens. Il y aura le comte de Boudherbala, Grand Corps Malade.
Est-ce qu'à chaque fois que tu fais un stand-up, l'endroit se transforme en restaurant, du coup?
Mais oui.
Une sorte de malédiction.
C'est une malédiction. Mais t'as raison.
Allez vite à l'Olympia avant que ce soit un McDo.
T'as totalement raison. Putain, mec, j'avais jamais vu ça. C'est parfait.
C'est une sorte
mais
de
oui, mais.
C'est ça. C'est une belle conclusion pour moi, en tout cas. Merci, j'ai appris quelque chose sur mon pouvoir.
Du coup, chers invités, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de débattre ensemble du meilleur ou de la meilleure humoriste. Évidemment, comme à chaque fois, ça va être très subjectif. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qu'on ne va pas citer, qui ne sont pas bons, etc. etc. C'est juste, voilà, essayer de comprendre aux gens qui ont un attrait ou non pour la scène, d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait qu'un humoriste est vraiment fort, où la différence se fait. Et surtout, bah, si les gens veulent s'y intéresser, les spectacles de qui faut qu'ils regardent avant tout. Je sais pas qui va ouvrir le bal. Cyrus.
Ah non.
Ça va être très bizarre parce que moi je dis que c'est Yacine tout le temps.
Mais... Allez.
Non, moi j'allais dire c'est hyper gênant, donc t'as intérêt à dire moi parce qu'on est dans la merde.
C'est Charles Soignon.
Voilà, merci.
C'est Charles Soignon la meilleure. Et moi j'ai toute une liste de
moi,
pourquoi.
Je peux expliquer. Cyrus, du coup, nickel.
Moi je pense que c'est Tom Aguilar vraiment. Il l'a pas. Futur, meilleur futur, je pense.
Voilà. Mais c'est le plus difficile de la question, c'est que comme on disait tout à l'heure, c'est des trucs vachement tranchés. Et c'est que en fait, c'est vachement en rapport avec les goûts. Et moi je vais arriver, je vais faire un animal qui part et quelqu'un qui aime pas ça, il va me dire mais je te hais. Meurs, arrête de faire parler ce renard. Et il y a quelqu'un qui aime bien, ils vont dire ah, bah, ok, pourquoi pas. Voilà, sûr. Donc effectivement.
Dedo, il nous a dit pourquoi tu voterais.
Ouais.
Ah ouais, ouais.
Oui, ah. C'est forcément Eddie Izzard.
Eddie Izzard.
Ouais. Bah, en fait, lui, c'est. Mais je peux expliquer alors des éléments de pourquoi je trouve que ça pourrait être le meilleur humoriste.
Carrément.
Pour moi.
Et
en deux, après Charles Soignon.
Non, mais je t'en prie. Je suis d'accord avec toi pour Eddie Izzard.
Et en deux, Eddie Izzard, parce que. Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup les blagues absurdes. Et comme disait tout à l'heure Charles, c'est hyper important d'avoir de la représentation pour pouvoir se dire ça peut avoir du succès. De la représentation des blagues absurdes surréalistes tout seul sur scène, il n'y en avait pratiquement pas. En France, je dis pratiquement parce que j'ai pas de nom, je me dis peut-être qu'il y a un gars que je connaissais pas, tu vois. Mais moi, avant Eddie Izzard, j'avais pas vu. Et donc, c'est pour ça que je me sens hyper inspiré et lié à lui et en rapport avec lui. Parce que moi, j'aime beaucoup ça et je fais ça sur scène. Donc, lui, ce que j'aime, c'est qu'il est très, très engagé dans sa forme à lui. C'est qu'il est très honnête, engagé sur ce qu'il va proposer sur scène. C'est un descendant des Monty Python. Donc, lui, il dit voilà, moi, j'aime bien ce genre de délire. Je trouve que c'est formidable de faire ça. Et il s'engage à 100% dans son style à lui. Et c'est un style qui n'était pas du tout à la mode. Il fait de l'humour alternatif. Quand il a commencé, c'était vraiment pas ça en Angleterre. Et
ça veut dire quoi de l'humour alternatif ?
L'humour alternatif, en Angleterre, c'est des définitions que les comics sortent. Donc, je vais répéter ce qu'ils m'ont dit. Tu vois, j'ai posé la même question. Ils m'ont dit c'est un humour dont on souhaite qu'il soit ni raciste. Ni homophobe, ni sexiste, un humour, on va dire, qui essaye de réunir le plus possible et qui a vocation humaniste et qui n'est pas là pour opposer. Alors qu'il y avait de grandes périodes où il y avait beaucoup de blagues avec ma belle-mère, mon ouvrier polonais, les Belges, c'est un arabe et un chinois qui sont dans un bateau. Okay, c'est des blagues qui sont racistes et qui peuvent être très drôles, je comprends totalement, mais il y a eu cette mouvance d'humour alternatif qui était là à « on veut étonner, on veut rajouter d'autres narrateurs et en plus de ça, on veut parler de choses qui sont importantes même idéologiquement ». Moi, je trouve qu'Eddie, c'est un humaniste et donc en fait, il essaye de rapprocher les gens le plus possible. Il le fait dans la vie, sur un point de vue politique, mais il le fait aussi beaucoup, beaucoup sur scène. Et en niveau, je veux dire, de la compétition des humoristes, si tu veux, en termes de rendement, c'est l'un des mecs les plus prolifiques que je connais. Il a fait 10 spectacles alors qu'il a arrêté pendant 5 ans tout en faisant des films. Et je suis très admiratif des gens qui peuvent produire énormément de matériel. Il le fait tout en respectant son axe à lui et le, on va dire l'amour qu'il a de l'humour absurde. Et c'est plus que respectable. C'est moi, à mon niveau, je suis vraiment, je suis très très impressionné par ça. Et donc moi, j'aime le fait qu'il veuille jouer en français, en allemand, en espagnol, en russe et en arabe.
Wow.
Il veut jouer dans ces langues-là parce qu'il veut rapprocher les gens, tu vois, et il veut faire en sorte que les gens se connectent. Donc je conseille.
Ok.
Ça paraissait chiant là, mais allez le voir, il est marrant. Eddie Izzard, il est trop marrant. C'était marrant.
Il est gaulerie, ok.
Mais c'est Romain.
Ah,
c'est Romain de ouf.
Non, c'était très bien construit.
Très belle démonstration.
Ouais, grave.
Mais c'est un peu pour ça que je cite souvent Yacine. D'ailleurs, on me demande pourquoi meilleur humoriste pour moi, parce que Yacine, il a ce truc de. En tout cas, que moi je ressens, et j'ai l'impression que t'as pas coupé avec l'amusement d'enfant.
Bah,
tu sais, le moment où on a eu des impôts, moi j'ai tout oublié de l'enfance. T'es là, bon, bah c'est terminé. Ouais,
c'était bien.
Et toi, t'as gardé ce truc. En tout cas, tu l'entretiens, tu le cultives.
J'essaye.
C'est une forme de... et ça se voit.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de naïveté?
Enfin, c'est une forme de naïveté, mais cultivée.
Oui.
Il n'est pas vraiment. Non,
mais pas négatif.
Mais cultivée dans le sens, c'est pas facile à faire.
Je pense que dans le podcast Nouvelle École, à un moment, t'as Pedro Winter qui parlait de garder cette naïveté d'enfance. et qui permet de...
qui permet de faire les bons choix et de faire des trucs.
Voilà, et de s'engager dans les projets, les machins. C'est un moteur en fait.
Ouais, c'est ça. C'est, et j'ai essayé de présenter des trucs qui te font, enfin qui vont me faire moi personnellement sincèrement rire. Et des fois, les gens en face trouvent ça vraiment ridicule parce que ça peut être, ça peut, par exemple, je fais des blagues avec des ninjas en ce moment. Et ça peut être vraiment perçu comme quelque chose d'enfantin, de bête en fait. On dit mais t'es bête, pourquoi tu parles de ninja? C'est des ninjas qui viennent me voir pour me dire j'essaye de chauffer une foule de ninjas mais ça marche pas parce qu'ils sont discrets, donc ils peuvent pas crier, ils peuvent pas dire on est là, ils peuvent pas faire ouais, tu vois. Et il y en a un qui apparaît, moi je les vois même pas parce que c'est des ninjas, et il y en a un qui vient me dire mec on est là, on veut juste te dire on est là, la réponse c'est ça, commence ton spectacle. Moi je dis mais pourquoi vous parlez pas? Il dit parce qu'on est des ninjas frère, notre patron il va nous casser les couilles et tout. Et ça peut être tellement bête pour des gens que moi je dois vraiment batailler pour assumer ce que je fais.
C'est ça que j'aime bien en fait.
Pour pas
c'est
me
ça que j'adore.
Là-haut, tu vois. Je suis trop content. J'adore. Ça se ressent.
J'ai vu ce truc de ninja au jardin sauvage. Et justement au début, tu disais, tu voyais des gens qui étaient, on comprend pas les ninjas. Et en fait, le force de pousser, tu les as eu tous. Ouais. Et c'est ça que j'adore. Et ce côté.
Mais c'est ce qu'on se dit avec Tom quand.
Ouvrir à ton univers. Je sais que t'aimes pas le mot univers, mais
ça me touche énormément que t'aimes bien ça.
C'est vrai.
Merci. Je relève venant de toi, surtout, ça me fait très plaisir.
Puis on se baise maintenant.
Je suis chaud. Allez, c'est le podcast du sexe. C'est parti.
Okay. Change de podcast.
Tout le monde c'est simply
the best.
Shirley, du coup, est-ce que pour résumer un peu ce que t'aimes bien chez Yacine, c'est peut-être ce que tu recherches et ce que t'aimes bien chez Maurice, c'est quoi, la sincérité et l'intention?
Oui, et la sincérité, évidemment, mais il y a aussi surtout ce... Bah, en fait, Yacine, il a ce truc de ne pas faire du stand-up comme tout le monde. Voilà. Il y a aussi ce truc-là. Ce côté, avoir des blagues que personne ne fait, une façon de dire les choses comme personne. Pour ça, effectivement, que je pense que l'heure va venir parce que c'est.
Il faut y croire.
Tu vois, je vais comparer ça à du jazz. Je vais comparer ça à du jazz. Il y en a qui font du jazz maîtré, ils lisent la partition. Et il y en a qui font du free jazz. Et il fait du free jazz. Il y a des putains de fausses notes, des fois, et c'est ça qui est beau.
Ouais.
Tu vois? Parce qu'il y a ce côté, genre vraiment, il est dans une chambre d'enfant. Et quand je le vois sur scène, moi, ça devient une chambre d'enfant. Je vois une chambre d'enfant et je vois un gamin qui est là, on va vous montrer ça, si. Et c'est hyper dur. c'est hyper dur de rester enfant quand t'as vécu.
C'est peut-être pour
quand
ça.
T'as les yeux d'adulte et que t'as vu des trucs. Ouais, t'es là, non, ça. On n'a pas envie. Dis-nous les problèmes. Parle-nous des pompiers,
c'est
des polices.
C'est ce qui se passe. C'est pas normal.
D'où les ninjas. Et on en a besoin. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut lâcher prise, se détendre et puis aborder le monde différemment quand on sort d'une salle de spectacle. Et c'est ce truc que les gens nous reprochent en stand-up par rapport aux gens qui font des sketchs. Qu'on fait pas assez rêver les gens, et ben la preuve étant c'est qu'Yacine il fait du stand-up qui peut faire rêver, tu vois, ce côté développer l'imaginaire. Et donc c'est pour ça que j'adore Yacine, quoi.
Ouais, merci beaucoup. Ah bah, ça me touche énormément.
Je suis au max.
En fait c'était un prétexte au podcast pour juste dire qu'on t'aimait bien.
Je propose qu'on fasse tous l'amour du coup.
Oui.
Yes. Et c'est parti, allez.
Yes.
Mais le projet de faire du stand-up dans ma tête, c'était vraiment essayer de dire les idées les plus étranges pour essayer de voir si ça passait. Et avec le recul, c'est vrai que la difficulté de faire passer des idées et des émotions aux gens, c'est moins la difficulté de demander aux gens, s'il vous plaît, soyez avec moi. Et tu parlais de première fois, c'est devenu quelque chose d'acquis. Donc c'est pour ça que la première fois, c'est beaucoup plus simple. On a déjà comme éduqué les gens, parce que c'est souvent les mêmes gens qui reviennent, parce que c'est une soirée, donc c'est pas un spectacle, donc ça change à chaque fois. Et les gens sont d'accord pour aider les artistes.
Juste pour préciser, parce qu'on a plusieurs fois mentionné la soirée première fois, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une soirée qui a pour principe de faire venir des artistes d'humour et musicaux qui vont jouer un morceau ou faire un texte pour la première fois.
Exact, bah, tu l'as mieux résumé que j'ai fait de toute ma vie. C'est incroyable.
Je veux
engager cette personne.
C'est mon skill, je peux juste faire ça. Je peux pas créer des choses, mais je les résume hyper bien. C'est pas ouf.
C'est ça.
Cyrus, du coup, toi, alors c'est une discussion un peu particulière pour une fois, parce que du coup, il y a Shirley qui a mentionné Yacine comme meilleur humoriste.
C'est la première fois d'ailleurs
que ça arrive.
Que voilà, que y a
j'ai fait bugger le système.
Je lui ai donné de l'argent.
Ça ne voit pas qu'un invité
donné beaucoup d'argent.
Se retrouve dans,
dans la liste.
Bah, dans la liste, quoi.
Et Charlie aussi, qui est meilleur humoriste pour moi. Je pourrais vous en parler pendant une heure et demie, mais je pense qu'on n'a pas le.
Moi, je prends un deuxième
avec plaisir. On fait une deuxième. Mon amour pour elle.
Cyrus, pour toi, c'est qui le meilleur humoriste? En tout cas, le master, encore une fois, c'est difficile de dire le meilleur, mais en tout cas, celui qui potentiellement est le taulier, quoi.
Ouais, le taulier. Moi, je pense que je vais mettre un Américain. Comme ça, je
mouille pas.
Non, mais c'est un bon choix déjà. C'est pas mal parce que c'est c'est les chefs.
Non, mais en vrai, je pense que même si c'est peut-être pas mon favori, c'est peut-être pas l'humour que je kiffe le plus. Tu vois, genre, Moi, il y a mes humours qui me touchent. Enfin, les humours qui me touchent, c'est plus. Je sais pas, par exemple, vous voyez Anthony Jeselnik ?
Ouais.
Tu vois, l'humour un peu noir, cinglant.
Oui, je vois très bien.
Bon, même si le côté un peu juste punchline me saoule un peu. Mm. Le one-liner.
La répétition du rythme.
Ouais.
D'accord.
Moi, j'aime bien quand il y a des histoires, etc. Machin. Mais j'aime bien les persos qui sont un peu genre. Un peu sombre, satirique. Méchant.
Tu vois, c'est un rapport avec ton enfance ou
Je sais pas, franchement, je sais pas.
Pardon. Il y a un spectacle qu'on aime beaucoup tous les deux qui est Make Happy de Bob Burnham.
Ah ouais,
Ouais. Qui est beaucoup moins méchant, hein. Lui, il est pas méchant.
Non, mais il est un peu acerbe, pas méchant, mais il est un peu sarcastique, il est un peu acide sur des trucs.
Il est un peu cynique.
Voilà, ça j'aime bien, mais c'est peut-être parce que moi je le suis pas du tout dans la vie. Et que du coup, ou alors je le suis pas avec les gens, alors qu'au fond je le suis peut-être un petit peu. Et c'est une partie de moi qui se révèle pas. Et du coup, voir les autres le faire, ça me fait du bien.
Ouais, ok,
peut-être.
Bah, c'est ça.
C'est
ouais,
peut-être
trop
ça.
Bien.
Mais c'est pas de lui dont je vais parler.
Make Happy, la fin de Make Happy, ça résume tout le côté dépressif dont on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Allez voir, si vous voulez pas voir tout le. Il est bien le show,
ouais.
Hein, il est super. Mais si, la fin, le moment de clôture, ça résume la dépression. Allez voir.
Non, mais c'est un très très bon show. Non, le gars pour qui je vais voter, je pense, c'est Jerry Seinfeld.
Ah ouais.
Ouais.
Même si c'est pas forcément mon humour.
Je suis totalement d'accord.
Parce que je trouve que le mec est une brutasse.
Mathématiquement parlant,
tu vois,
ça marche tout le temps.
Exactement.
Et tu le vois, genre, j'avais maté.
Mais tu rigoles quand tu rêves?
Ouais.
Moi, je rigole
à chaque
aussi,
fois, tu vois.
Moi,
j'aime.
Moi, je rigole.
J'arrive pas.
Ouais. Et puis il y a des trucs où je me dis putain, mais c'est ouf que personne n'y ait pensé avant. T'es tout con. Par exemple, dans le spectacle que t'as cité.
For the Last Time.
Voilà. Il parle du dry cleaning,
ouais,
le nettoyage à sec,
ouais.
Tu vois. Et il dit, donc il dit ce truc, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Et il dit, donc, c'est pas possible, enfin, tu vois, le dry cleaning, nettoyage à sec, nettoyage à sec, c'est ça. Et donc là, il se gratte, tu vois, et tu t'enlèves une sorte de poussière, voilà, il fait ça, c'est nettoyage à sec, tu vois.
Oui.
Tout le reste, ça peut pas, c'est pas possible.
Il doit
voilà,
y avoir un liquide.
Il y a un liquide, il y a un truc et tout, machin. Ouais. Tu vois.
C'est dur de raconter une blague, hein.
Ouais, ouais.
Et je le trouve fort. Et donc j'ai vu c'est pas un spectacle, mais c'est un documentaire un peu comédienne.
Oh, il est magnifique. Oh, c'est
ouais.
Tellement beau.
C'est génial. Donc on suit en fait deux personnalités, Seinfeld et un autre gars.
Ouais.
Dont j'ai oublié le nom.
Chelou de ouf, non?
Ouais, en fait.
On suit deux gars en comédien.
Oh, je l'ai plus.
Ouais, tu suis un peu l'autre. Et puis après, tu te ressens beaucoup plus sur Seinfeld.
Orny Adams.
C'est un.
Voilà.
Et le documentaire a gâché sa vie quand même. À
ouais, c'est
Adams.
Ça, on est d'accord.
Ouais, ça a totalement gâché sa vie. On peut aller voir Comédienne, ça explique la vie des comédiens.
C'est donc ce deuxième gars dont vous parlez, c'est celui qui écrivait toutes ses blagues dans
ouais,
les cahiers, etc.
Ouais, qui avait 10 000 cahiers et tout. Et
enfin, pour moi, on le suivait pas dans le truc. Pour moi, c'était un gars qui était.
Bah, en fait,
à un moment donné.
En fait, non,
ah,
on
le suit. Ah ouais, parce que pour moi, on dirait un fou, quoi.
Et bah ouais, mais.
J'ai retenu juste, ouais, un fou dans le truc.
Ça a vraiment.
Le mec chelou, là, qui écrit des trucs, quoi.
Ouais, bah vraiment, il passe pour un mec fou. En fait, en vieillissant, moi, quand j'étais. La première fois que j'ai vu Comédienne, j'ai dit, oulala, quel relou celui-là. Et puis après, tu vis, tu comprends les principes du montage,
ouais.
Et tu sais qu'en fait il y avait des rushs, et tu comprends comment ça marche le montage.
C'est
et tu dis, bah au montage, je pense qu'il y avait d'autres choix peut-être que
okay.
Prendre que les moments où il a l'air complètement
ça,
malade,
ouais.
Tu
ouais.
Vois. Et en fait, par contre, ça résume la vie des humoristes.
Ouais.
Comédienne,
ouais.
Ça m'était sorti de la tête, mais excellent choix, bravo Cyrus, franchement, trop bien.
C'est
et ben, bien. Tu vois, quand je l'ai vu aussi, je me suis rendu compte du bon, évidemment, de tout le taf, etc. Et mon Seinfeld, je le trouve. Bah, tu vois, c'est trop cool d'arriver, de le voir tester un truc, etc. Et de voir comment il monte tout son spectacle.
Surtout
et tout.
Qu'à l'époque, il était au sommet.
Ouais,
c'est ça qui est chouette.
Exactement.
Il est méga au sommet.
Et il remonte sur le ring. Tu vois, c'est ça que je trouve fou. C'est qu'il a fait Seinfeld, c'est une brutasse, etc. Machin, et il va au Cellar.
Ah,
vois,
c'est courageux. Voilà.
Il va au Comedy Cellar, donc l'équivalent du Panam
voilà,
Art Café à
exact.
Paris, tu vois. Donc une petite scène, voilà, scène ouverte, machin. Et remet donc son titre en jeu. Et au bout de je sais pas combien de temps, il fait son spectacle et ça cartonne et tout. Et donc, tu vois, quand tu le vois dans Comedians in Car Getting Coffee,
ouais.
Tu vois, genre, juste sa manière d'être, en fait, je kiffe son assurance un peu.
Tu sens qu'il a
ça,
craqué un truc.
Tu sens qu'il a de l'argent.
Tu sens qu'il a craqué. Il a
quand
craqué...
il parle, il est bien.
Oui.
Oui.
Tu sens
oui.
Qu'il a craqué le code de GTA où il a un espèce
ouais.
D'algorithme où il y aura toujours. Il arrivera à faire une vanne sur un truc qui marche, quoi. Tu sens qu'il est dans une zone de confort plus d'humour. Et c'est là, moi aussi, je le trouve très fort. Et du coup, je reprends la parole. Et je suis désolé, je t'ai coupé. Tu voulais
dire non.
Truc. Non, et du coup, je me joins à toi parce que je pense aussi que je vais voter pour Seinfeld. Après, je pense que des personnes autour de cette table, c'est moi qui ai la moins de culture stand-up et tout. Donc, j'ai un peut-être un regard plus extérieur et moins expert. Et c'est vrai que de loin, on a l'impression que c'est souvent lui qui est cité comme référence.
Mais ouais.
Le nombre de gars qui disent s'en être inspiré, qui a démocratisé la forme, qui est là depuis longtemps.
Il a créé des business, mec. Il a créé des marchés. C'est-à-dire qu'il racontait au début que lui, il devait aller dans des restaurants et expliquer aux gens c'est quoi le stand-up, expliquer ce qu'il allait faire, pourquoi ça avait de la valeur et pourquoi il devait l'engager et pourquoi il devait le payer. Donc le gars, il n'y a rien du tout. Il arrive, il crée un marché. Alors effectivement, aujourd'hui en France, ça commence à se démocratiser. Tout le monde commence à en faire. Il y en a dans des restos, il y en a partout. Mais lui, l'a fait dans les années 70. Ça existait déjà le stand-up à la télé et tout. Hein. Non, ça existait. Mais lui, il racontait qu'il allait créer des scènes. Il a la carrière la plus longue. Il a accumulé que des succès tout au long de sa carrière.
Il a fait plein de trucs. Il a essayé de faire une série. Il a fait du coup Comedians in Car Getting Coffee, qui est super. Enfin, allez la voir, c'est sur Netflix. Pendant 20 minutes, il prend un acteur, un comédien ou une comédienne et il se balade.
Ou un président de la République.
Ouais, il fait avec Obama. Et juste prendre un café.
J'ai pas vu Obama,
c'est
il fait avec Obama.
Génial.
Qui est très marrant.
J'ai vu avec Letterman l'échange Letterman-Obama, mais j'ai pas vu.
Et Obama, pendant qu'il est encore en pouvoir, quoi. Il va le chercher à la Maison Blanche. C'est incroyable.
Il essaie de sortir de la Maison Blanche, le mec fait non.
Et c'est vrai que. Excuse-moi, Yacine, je t'avais coupé, je suis désolé.
Non, mais il y a aucun problème. Je devais dire, Seinfeld, il a le plus de succès parce que ça fait très longtemps qu'il joue. Et il a commencé hyper jeune et c'est comme si c'était le ultimate comique. Parce qu'il n'a pas eu de vrai down dans sa carrière. Il a toujours été. Il est toujours là, je suis bien, tout va bien. Comédien d'Incar, au début, ça paraissait une blague. Et aujourd'hui, maintenant, il est sur Netflix. Il a pris énormément d'argent pour cette nouvelle forme. Qu'il a créé et qui est juste trop bien. Et je suis totalement d'accord avec ton choix.
Non, mais en plus, le truc, c'est que quand tu le vois sur scène ou dans ses shows, etc., machin, ça a l'air très facile pour lui. Tu vois, il a l'air, tu vois, dans son spectacle, quand il est là, il arrive en costume et tout. Tu sais, vraiment, il a l'air simple, tu vois. Mais et ce que j'ai kiffé, c'est voir tous les offs et voir comment il stresse avant d'y aller, etc., machin. Et c'est ça que je trouve fou dans cet art aussi, c'est rendre, faire paraître simple. Et authentique et spontané, un truc qui demande, tu vois, qui est tellement dur, etc. Tu vois, et je trouve que ça, il le fait hyper bien.
Mais juste une petite nuance, et je rejoins ce qu'a dit Shirley sur le fait de est-ce que tu rigoles. C'est vrai qu'il y a une stimulation qui est plus intellectuelle qu'émotionnelle quand tu regardes Seinfeld, à plus te dire putain, c'est smart, il a touché mon cerveau, mais il touche pas mon cœur sans cesse. Là où il y a des spectacles, genre je pense à Nanette qui est dingue et qui, le coup, lit les deux, et ce qui est aussi très fort émotionnellement. Et même en France, tu vois, où je me dis Blanche Gardin
bien sûr.
qui arrive à toucher ton cœur et ta tête, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension qui peut un peu manquer aussi, qui je mets une petite nuance, mais après, voilà. Pour moi, c'est le master.
Mais tu vois, genre, c'est pas mon favori. Tu vois, genre, par exemple, Louis C.K. me fera plus rire.
Bien sûr.
Mais en termes d'humoriste, je pense que je respecte... Plus Jerry Seinfeld et surtout en tant qu'homme.
Mais aussi, c'est la beauté.
On va pas rentrer dans ce débat-là.
On va s'arrêter là-dessus.
On peut en parler une heure. Non, mais avec Jerry Seinfeld aussi, la volonté qu'il a, c'est justement lui de faire des blagues qui sont, les Américains appellent ça de la comédie clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas, alors que de Blanche, elle va essayer justement de rentrer, de dépasser les frontières de l'entreprise. Entendable ou des sujets qu'on a l'habitude d'aborder pour justement titiller les gens et les faire sortir un petit peu de leur zone de confort, mais pour leur bien, pour les faire rire de quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, et ça défoule, ça fait plaisir. Alors que Jerry Seinfeld, lui, c'est vrai qu'il fait des blagues genre parfaites, mais de choses qui tu peux les répéter toute ta vie. La blague sur le dry cleaning, là tu peux. Il a fait des dizaines de blagues auxquelles tu repenses en marchant dans la rue.
Le biathlon, par exemple, le fait de shooter un gars et ensuite de faire du ski de fond. Il dit...
Tu shootes pas un gars dans le biathlon, bon, juste après.
Non, tu shootes au fusil.
Je vénère, mais les sports évoluent vite, mais on n'est pas quand même au point où on tire sur les gens dans le.
Non, on tire pas sur des gens, je crois.
Non. pas directement.
C'est ça, c'est que je pense qu'en réfléchissant, je me dis, Jerry, finalement, c'est vrai que c'est pas facile ce qu'il fait parce que. Aller faire un truc drôle avec un truc dont on se bat les couilles.
C'est vrai.
C'est quand même pas évident.
C'est hyper dur.
J'ai jamais vu sous cet angle.
Il y a un truc qui s'appelle Talking Funny, où c'est genre Jerry Seinfeld, Chris Rock Ricky Gervais et Louis C.K. qui discutent pendant une heure et demie, je crois, à quatre.
Ouais.
Donc, ouf. Et on mettra le lien.
C'est un peu comme nous, finalement.
C'est vrai. Pour être tout.
Et t'as Seinfeld, t'as cette discussion de l'utilisation du mot « fuck ».
Ah oui,
et Seinfeld dit moi je hors de question que j'utilise.
Oui,
genre il dit parce qu'il dit aussi que genre c'est trop facile en fait.
Haroun dit ça aussi. Haroun parle de ça en France. Haroun dit moi tous les gens qui parlent de cul sur scène, j'ai du mal à les respecter. Donc ils ne me respectent pas, visiblement.
En fait.
Mais peut-être qu'il fait une distinction.
Peut-être
qu'il fait une distinction en parlant de genre de sexe en général et de cul, des blagues de cul, genre dire des gros mots pour faire rire.
Non, c'était plus le fait de développer des sujets sur le cul.
Ah. Mais là, il va même
un problème pour
lui. Il va même plus loin. C'est comme si Haroun disait, moi j'ai du mal avec les gens qui disent putain.
Ouais.
Tu vois.
C'est un peu ça.
Et
je comprends même, et je trouve ça cool parce que
ouais voilà c'est ça,
parce que du coup bah ça demande un vrai travail d'auteur.
Mais
en même temps sur scène t'es plus un auteur, t'es toi, t'es toi-même, et c'est là où moi Jerry Seinfeld j'ai du mal parce qu'il touche pas mon cœur, je me dis bah il est pas vraiment lui-même quoi.
Et en même temps il raconte que des trucs,
moi j'ai l'impression que si Jerry Seinfeld commence à raconter des blagues avec plein de cul dedans et des phoques et tout, pour moi je pense que ça va me choquer, ça va me violenter.
Ouais, mais non ça va, tu vas pas kiffer je pense.
Moi je dis des blagues avec des gros mots des fois, je fais des blagues sur les insultes en ce moment, donc je dis des gros mots et des insultes, ça a vraiment, j'ai de la difficulté avec ça parce que les gens ont pas l'habitude de me voir avec des mots violents. Et moi, ça me fait mourir de rire. Et pourtant, des fois, ça passe. Et des fois, les gens font « Mais pourquoi il dit ça, le monsieur ?» Il était gentil il y a 10 minutes. Donc, ouais, je comprends. En fait, c'est aussi ton personnage dans un sens.
Ouais.
Avant, du coup, de clore un peu ce débat, on a une tradition dans cette émission, c'est qu'on fait un petit vrai ou faux. Aujourd'hui, je vais vous donner des noms de spectacles.
Faux.
Vous allez me dire si ces spectacles existent vraiment ou non.
Et avant qu'ils le disent, je tiens à préciser que Tom, ce matin, vers...
Attends.
Vers 10h, il me disait ouais, attends, j'ai pas eu le temps, massin, j'ai pas encore fait le vrai ou faux. Ouais. Donc il l'a fait en une journée, moins d'une journée.
Vrai.
Bravo.
On aurait pu le dire après, parce que c'est pas non plus.
Tu as vendu un truc du coup.
Est-ce que le spectacle Camping Car Forever existe?
Je sens que ça existe.
Moi je dis faux.
Ça existe clairement, c'est le dernier spectacle de Chevalier du Fiel.
Je tiens à présenter mes excuses, Chevalier du Fiel.
Est-ce que le spectacle Débil Mentol, J'arrête de fumer existe?
J'espère que non.
Faux.
C'est vrai, ça existe.
Faux.
Ça n'existe pas.
Oh putain, t'es fort.
Parce que j'ai senti la rigoler à sa blague. J'ai dit ça, c'est pas vrai.
Est-ce que le spectacle Salut l'arthrite
vrai
existe?
Vrai, c'est vrai.
C'est qui?
Je sais pas, une dame âgée qui dit Salut l'arthrite.
C'est vrai,
ça existe.
C'est qui?
Ouais, c'est un spectacle de Denis Germain et Patricia Wheeler.
On est plus dans le stand-up, voilà. On est d'accord.
On est plus dans le stand-up. On est dans le spectacle au sens large.
Est-ce que t'as été sur Avignon Off ou pas?
Non, mais il y a des liens qui m'ont ramené sur Avignon Off à des moments.
Ah bah ouais.
Mais c'était ouf parce que en fait, en essayant d'en inventer des faux, en fait, ils existaient. J'avais des jeux de mots nuls et vraiment, je les tapais pour checker et ça existait.
Salut l'artiste. Du coup, je suis fâché.
C'est pour ça.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand je les comprends deux minutes après, ça m'énerve de
ouf. Il y a vraiment beaucoup de mots. Est-ce que le spectacle Tromperie sur la marchandise existe?
Oui.
Absolument. Oh, et il se joue au théâtre des Deux-Ânes actuellement.
Moi, quand les jeux de mots m'énervent un peu, je pense que ça existe.
Est-ce que le spectacle Célibatante mais attachante existe?
Ouais, il existe. Je l'ai déjà vu le tract.
Non, mais il va sortir dans pas longtemps, je sens.
J'ai déjà vu le tract.
Il n'existe pas.
Ah, c'est dommage.
Est-ce que le spectacle Je pionce donc je suis existe?
Oui.
Non.
Et attends, c'est Michael Hersh.
Bien joué.
Ah, ouais.
Bien joué.
Ouais, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup ce gars.
Il est très gentil, vraiment très cool.
Et enfin, est-ce que le spectacle La rhétorique des zygomatiques existe?
Oui.
Il n'existe pas.
Oh.
Ça aurait été rigolo. Ça aurait été beau.
Et ben, c'est bien dommage qu'il n'existe pas.
Oui, mais il est à prendre, on vous le donne.
Très bien.
Si vous voulez le faire, n'hésitez pas.
Libre de droit.
Pour le spectacle de Yacine qui n'a pas encore de nom du coup, enfin qui n'a
si, joue, si, son, joue spectacle. Son spectacle. Joue son spectacle. Mon titre c'est Yacine Bellou joue son spectacle.
On mettra pas Zygomatique.
D'accord, non. Je garde Yacine Bellou joue son spectacle.
Du coup, chers amis, c'est le moment de clôturer ce débat. Donc j'ai l'impression que il y a quand même Jerry Seinfeld qui se dégage pour un sort de consensus.
Pour une grande majorité d'entre vous. Oui.
Et en même temps,
ouais, je sais, Charlotte là sur.
Moi comme d'hab, t'inquiète, je suis la minorité.
Non mais et en...
l'habitude.
Et en même temps, on pourrait changer notre vote et faire gagner quelqu'un.
Qui n'existe pas.
Non, mais quelqu'un, un invité, quoi. C'est la première fois qu'on peut faire gagner un invité.
Non, c'est trop, ce serait horrible. Parce que Jerry Seinfeld, il est vraiment au-dessus, il peut pas. Je pense qu'il enverrait des. Normalement, il y a un truc, si ça sait, la FBI me canne, quoi.
On sait que les deux meilleurs, c'est Charlotte Soignon et Yacine Bellou. En troisième, c'est Jerry Seinfeld. Et voilà, on peut dire le troisième meilleur humoriste, c'est Jerry Seinfeld.
On peut faire ça.
Moi, je suis chaud. Tout le monde. Applaudissons ce consensus.
Bravo.
Bravo.
On s'en est sorti.
Shirley et Yacine, merci beaucoup d'être venus. C'était un kiff de donner de votre temps, de votre énergie. En plus, Shirley, toi, t'as eu un petit traumatisme
un petit
il y a quelques
camion,
jours. Ouais, c'est ça, du coup.
Ça c'est incroyable.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Yacine?
Moi, je reprends mon spectacle à partir d'octobre. Et donc, d'octobre à décembre, je serai à la nouvelle scène. Et sur Insta et tout ça, il y a toutes les infos. Et voilà. Donc,
allez le voir.
Avec plaisir.
Allez le voir, s'il vous plaît.
Non,
vous êtes humoriste. Il est autoproduit, etc.
C'est vrai, c'est moi.
Il faut soutenir à 100%.
Moi, je préfère dire il se produit lui-même, ouais, qu'il est auto-produit. Oui. Ouais, parce que c'est genre vraiment autosuffisance, il est tout seul chez lui. Ouais. Il est son propre public aussi.
Il fait tout lui-même.
Ouais, j'aime bien.
Il se produit lui-même.
Ouais, je pense
I produce myself.
Pour les gens qui n'habitent pas à Paris, est-ce qu'il y a des sketchs, des passages?
Attends, tu veux dire les gens en province?
En région. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir ton travail sans te voir en vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir te voir aussi en vrai peut-être plus tard?
Certainement une tournée à partir de janvier, j'espère. Et sinon, il y a des petits bouts sur internet. Il y en aura de plus en plus parce que je vais poster un peu. Et puis, j'espère vraiment bouger en janvier, mars pour essayer de jouer partout où je peux.
Et l'histoire des chaussettes aussi, on a
l'histoire racontée, ouais. L'histoire racontée par des chaussettes, si vous voulez voir, si vous aimez l'humour un peu foufou. Je sais pas comment distinguer ce truc, comment expliquer les chaussettes, mais c'est des chaussettes dans un décor qui parle d'histoire. Donc voilà, c'est sur YouTube, bien. Ça, avec des dos.
Charlie, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Yacine est à la Nouvelle Scène sur un bateau. Moi, vous continuez de marcher un peu plus loin jusqu'à la Cité de la Mode. Et en dessous, il y a le Jardin Sauvage qui est aussi un bateau. Et là, il y a un comedy club qui a ouvert il y a 6 mois.
Okay.
Et du coup, Yacine passe souvent. C'est cool. Ouais. Il y a des plateaux en anglais le samedi. Il y a des plateaux du mardi au dimanche, 2 à 3 fois par soir. Donc n'hésitez pas. Et aussi, j'oublie ça, le Barbès Comedy Club. J'ouvre un comedy club.
Wouh
oh ouais. Merci beaucoup. Dédié totalement au stand-up à partir de septembre, fin septembre, voilà.
Ok, trop cool.
Donc et deux salles, Jardin Sauvage et le Barbès Comedy Club.
Et t'as aussi un morceau de ton spectacle sur Netflix aussi pour les gens qui ne passent pas de venir te voir en vrai, qui veulent voir un peu quoi ça ressemble.
Avec grand plaisir, regardez, je suis vraiment fier de ce passage. C'est rare que je sois fier des passages télé que j'ai fait.
Ouais, il était charmé.
C'est le seul dont je suis fier en fait. Donc regardez-le.
Comment ça se passe? C'est genre Netflix qui te contacte et tout?
Ouais, ils t'appellent, ils te disent viens, tu dis un peu avec plaisir, bien sûr. J'arrive.
Tu dis quand, quelle heure?
Quand, combien?
Et ça a changé un truc
Ça a changé ma confiance en moi.
Ouais.
Je pensais que ça allait changer d'autres choses, mais ça a changé que ma confiance en moi. Mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça faisait 10 ans là que je faisais du stand, enfin non, de la scène. Ça fait 5 ans que je fais du stand-up. Et donc là, ça m'a fait passer un palier au niveau du stand-up parce que pour moi, ça fait vraiment que 5 ans que je pratique cet art. Et là, je me dis, bon, bah, c'est cool, je suis sur le bon chemin. Parce que j'avais peur, j'avais monté ma société il y a 5 ans et je faisais les deux en même temps. Donc, je commençais à être vraiment nul en stand par rapport à ce que j'aurais dû être. Quoi.
Ta société, du coup, de production.
Spectacle.
Charlie produit des trucs.
J'ai commencé à produire Adrien Arnoux, puis on a vite arrêté. Il m'a dit, je veux pas faire de spectacle. Je dis, bon, bah, arrêtez de produire. Je produis rien, du coup. Non, mais en tout cas.
Genre, tu produis qui, par exemple?
Justement, je ne produis plus de personnes.
Okay.
Je produis des concepts, notamment le podcast où tu es venu. Ouais. Je vais en produire d'autres pour d'autres gens. Ça doit être aussi un studio YouTube, Jardin Sauvage. Là. Il y a des caméras, on va s'éclater à faire plein de programmes pour plein de gens. J'aimerais beaucoup monter une chaîne d'entertainment en fait.
Bonjour à tous et désolé pour cette coupure un peu brutale, hein, c'est le tome du montage qui vous parle. On a eu un petit souci technique pendant l'émission à la fin du coup de l'enregistrement et il manque les 2 dernières minutes du podcast, j'en suis sincèrement désolé. Alors bon, vous avez rien loupé de ouf, hein, juste on disait au revoir à nos invités, on les remerciait d'être là, donc je vais le refaire ici. On remercie très fort Yacine Bellouf et Shirley Soignon d'être venus lors de cette émission. Il y a tous les liens dans la description des trucs cool dont on a parlé dans cette émission. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Bonne journée à tous. Simply the best. Down, 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 down.